de Stefan Zweig, Les heures étoilées de l'humanité. Enregistré par Christiane Jehan. L'élégie de Marienbad, 5 septembre 1823. Le 5 septembre 1823, une calèche roule lentement sur la route de Karlsbad à Heger. Ce matin, sans l'automne, il est déjà un peu froid. Un vent vif souffle sur les champs moissonnés, mais un ciel bleu est tendu sur tout le vaste paysage. Dans la voiture sont assis 3 hommes, monsieur le conseiller secret du grand-duc de Saxe-Weimar, von Goethe, c'est ainsi que la liste des hôtes de Karlsbad désigne fièrement le poète, et ses 2 fidèles, Stadelmann, le vieux serviteur, John, le secrétaire, qui a recopié les brouillons de presque toutes les œuvres de Goethe à partir du début du siècle. Personne ne souffle mot, car depuis qu'on a quitté Karlsbad, où de nombreuses jeunes femmes et jeunes filles sont venues saluer ou embrasser l'illustre écrivain, ce dernier n'a pas desserré les dents. Il est assis, immobile, le regard perdu dans ses méditations. Au premier relais, il descend de voiture, et ses 2 compagnons le voient griffonner rapidement quelques mots sur une feuille de papier. Tout le long du chemin jusqu'à Weimar, la scène se répète. À Zwotau, à peine arrivé le lendemain au château de Hartenberg, à Eger, puis à Posneck, partout son premier soin est de mettre sur le papier ce qu'il a préparé dans sa tête durant le voyage. Son journal indique, d'une façon laconique, « Travailler à la poésie, 6 septembre, continuer la poésie, dimanche 7 septembre, revu encore une fois la poésie, 12 septembre. » À Weimar, l'œuvre est terminée. C'est l'élégie de Marienbad, la poésie de sa vieillesse la plus significative, la plus intime, et aussi celle qu'il aime le mieux, son adieu héroïque et sa glorieuse transformation. Au cours d'une conversation, Goethe a appelé cette poésie journal intime. Il n'est en fait peut-être pas une page de son journal qui soit aussi franchement révélatrice que ce document, à la fois tragiquement interrogateur et tragiquement plaintif. Aucune effusion lyrique de ses années de jeunesse n'a jailli d'une façon aussi directe de sa vie. Il n'est aucune de ses œuvres que nous puissions voir se former aussi clairement, ligne par ligne, strophe par strophe, heure par heure, que ce poème le plus profond, le plus mûri, fruit tardif, paré des rougeurs automnales, du vieillard de 74 ans. Produit d'un état au plus haut point passionné, ainsi que l'auteur l'écrit à Eckermann, la poésie allie à la profondeur et à la sincérité du contenu la plus haute maîtrise de la forme. Aujourd'hui, après plus d'un siècle, rien n'est passé, tout est resté vivant dans ces pages magnifiques au-dessus desquelles brille l'étoile du renouveau. L'élégie de Marienbad annonce un bouleversement dans la vie du poète. En février 1822, Goethe avait eu à faire face à une grave maladie. De brusques et violents accès de fièvre viennent lui secouer le corps. Il a déjà perdu connaissance plusieurs fois et on le croit près de la mort. Les médecins, qui ne reconnaissent aucun symptôme précis et ne voient que le danger, sont impuissants. Mais voici que la maladie s'en va aussi soudainement qu'elle est venue. Au mois de juin, Goethe se rend à Marienbad, tout à fait transformé. On dirait presque que cette attaque n'était que l'indice d'un rajeunissement intérieur, d'une nouvelle puberté. L'homme réservé, dur, froid, en qui les facultés poétiques s'étaient presque muées en érudition, ne vit plus pour la première fois depuis des décades que dans le monde des sentiments. La musique le déchire. Il ne peut plus entendre jouer du piano, surtout par une aussi jolie femme que la Szymanowska, sans que ses yeux se remplissent de larmes. Il a un profond penchant pour la jeunesse et ses compagnons regardent tout étonnés ce septuagénaire papillonner autour des femmes jusqu'à minuit et mieux encore danser, ce qu'il n'a pas fait depuis des années. Au changement de cavalier, raconte-t-il fièrement, les plus jolies filles tombent dans ses bras. Son être figé s'est fondu magiquement au cours de l'été et son âme détendue succombe à l'éternel enchantement. Son journal mentionne « Songe conciliant ». Le Werther d'autrefois se réveille en lui. Le contact des femmes lui inspire de petites poésies, le pousse à des plaisanteries et à des taquineries comme il y a un demi-siècle lorsqu'il fréquentait Lili Schönmann. Son choix est encore incertain. c'est tout d'abord pour la belle musicienne polonaise, puis pour la jeune Ulrike von Levetsov, que bat son cœur rajeuni. 15 ans plus tôt, il a aimé la mère. Il y a un an encore, il taquinait paternellement la petite fille, mais son penchant se transforme soudain en passion. C'est une nouvelle maladie qui s'empare de lui et le secoue plus durement qu'aucun événement n'a pu faire depuis bien longtemps. Il est amoureux comme un adolescent. À peine a-t-il entendu la voix aimée sur la promenade qu'il abandonne son travail et se précipite sans canne et sans chapeau vers l'enfant rieuse qu'il appelle. Il fait du reste une demande en mariage comme un jeune homme et on assiste à ce spectacle grotesque et qui a quelque chose de faunesque dans son tragique. Après avoir délibéré en secret avec son médecin, Goethe s'ouvre au plus vieux de ses amis, le grand-duc, en le priant d'aller solliciter pour lui à Madame von Levetsow la main de sa fille Ulrike. Et celui-ci, qui se rappelle maintes nuits de noces passées en sa compagnie il y a 50 ans, souriant peut-être à part lui de l'homme que l'Allemagne et l'Europe honorent comme le plus sage parmi les sages, l'esprit le plus réfléchi et le plus éclairé de son époque, met ses décorations et va solennellement demander à la mère, pour le vieillard de 74 ans, la main d'une jeune fille qui en a 19. On ne sait rien d'exact quant à la réponse, mais il semble qu'elle fût dilatoire. C'est ainsi que Goethe est sans aucune certitude. Il faut qu'il se contente des quelques rapides baisers qu'il a reçus, des paroles gentilles qu'on lui a dites, cependant que l'agite le désir de plus en plus violent de posséder, de tenir encore une fois dans ses bras la jeunesse sous une forme aussi délicate. De nouveau, l'éternel impatient lutte pour ce qu'il considère comme la plus haute faveur du moment. Fidèle à son amour, il suit la bien-aimée de Marienbad à Karlsbad, mais là non plus rien n'est certain, et au fur et à mesure que s'écoule l'été, sa souffrance s'accroît. Enfin, le moment du départ approche, il s'en ira sans avoir reçu ni engagement ni promesse. Lorsque la voiture se met en route, le grand intuitif sent que quelque chose de considérable dans sa vie vient de finir. Mais, éternel compagnon de toute profonde douleur, le vieux consolateur est là, aux heures sombres, sur l'homme qui souffre, se penche le génie, et celui qui ne trouve pas de consolation sur la terre fait appel à Dieu. Une fois de plus, Goethe se réfugie dans la poésie, et en reconnaissance de cette dernière grâce qui lui a été faite, il inscrit en exergue de l'élégie qu'il va composer ces vers de son Torquato Tasso. « Et si l'homme se tait dans sa souffrance, un Dieu m'a donné le pouvoir de dire ce que je souffre. » Assis dans la voiture, le vieillard réfléchit, découragé par le doute que font naître en lui les questions qu'il se pose. Ce matin encore, Ulrike est accourue avec sa sœur pour assister à son départ tumultueux. Au moment de l'adieu, elle lui a posé sur les lèvres sa bouche, tendre et aimée. Mais était-ce là un baiser d'amour ou un baiser filial? Pourrait-elle l'aimer? Ne l'oubliera-t-elle pas? Puis Goethe pense à son fils, à sa belle-fille, qui attendent avec impatience le riche héritage qu'il doit leur laisser. Toléreront-ils ce mariage? Le monde ne se moquera-t-il pas de lui? Ne sera-t-il pas l'année prochaine encore plus vieux pour elle? Et quand il la reverra, que peut-il espérer? Les questions se succèdent, inquiètes. Soudain, l'essentiel revêt la forme d'un vers, d'une strophe. La souffrance devient poésie. Le Dieu a donné au poète le pouvoir de dire ce qu'il souffre. Direct, franc, nu. Le cri interrogateur pénètre dans l'élégie et l'empuissant du mouvement intérieur. Que puis-je à présent espérer du revoir, de la fleur de ce jour encore fermée? Le paradis, l'enfer sont ouverts devant toi. Quelle incertitude agite ton cœur. De son trouble coule alors, en strophe cristalline, la douleur merveilleusement purifiée, et comme le poète parcourt la détresse chaotique de son état intérieur, en subit la lourde atmosphère, son regard se lève par hasard sur le paysage bohémien qui se déroule autour de lui, et dont le calme matinal, la paix divine, font un tel contraste avec l'agitation de son âme. À peine entrevu, le tableau passe dans la poésie. Et quoi, ne reste-t-il pas l'univers? Les flancs des rochers ne sont-ils plus couronnés d'ombres saintes? La moisson ne mûrit-elle plus? Un verdoyant pays semé de bois et de prairies ne longe-t-il plus le fleuve ? Et l'immensité du ciel n'est-elle plus une voûte, tantôt riche, tantôt vide de forme ? Mais ce monde est trop inanimé pour lui. Dans un tel moment de passion, il ne peut saisir les choses qu'en liaison avec l'image de l'aimé, et son souvenir renaît dans une transfiguration magique. Avec quelle légèreté et quelle grâce, délicatement dessinée, s'élève tel un séraphin du cœur des nuages graves, comme si c'était elle, dans l'azur de l'éther, cette svelte et claire figure de vapeur lumineuse. Ainsi tu la voyais briller dans la danse joyeuse, la plus charmante des charmantes créatures. Pourtant, tu ne saurais te permettre qu'un instant de prendre pour elle une image aérienne. Rentre en ton cœur. Là, tu la trouveras mieux. Là, elle se meut en changeante figure. Unique beauté sous mille métamorphoses et toujours, toujours plus aimable. À peine évoquée, l'image d'Ulrich devient un être matériel. Il décrit comment elle le reçut et le rendit graduellement heureux, comment, après le dernier baiser, elle le rattrapa pour lui en imprimer sur les lèvres un tout dernier et plein d'un bonheur rétrospectif. Le vieux maître compose cette belle strophe sur l'amour et le don de soi. Dans le plus noble de nous-mêmes flotte le désir de se donner librement, en gratitude, à un être plus haut que nous, plus pur, inconnu. Cela s'appelle être pieux. Ce sentiment sublime, je le ressens quand je suis devant elle. Mais le souvenir de cet état de bonheur fait souffrir de la séparation l'homme seul, et une douleur s'exhale, qui, détruisant presque le caractère élégiaque du poème, s'exprime avec une franchise rare. La plainte est émouvante. Me voici loin d'elle. À présent, que convient-il de faire ? Impossible de le dire. Certes, la vie m'offre encore maintes choses belles et bonnes, mais elles ne font que me peser, et je veux m'en délivrer. Un désir invincible me travaille et m'agite, nulle autre ressource que des pleurs sans fin. Puis monte ce dernier cri tragique, dont on trouverait difficilement l'équivalent. Abandonnez-moi ici, fidèle compagnon de route, laissez-moi seul au pied du rocher, dans la fondrière, allez. Le monde vous est ouvert, la terre est vaste, le ciel majestueux et grand. Examinez, étudiez, rassemblez chaque fait, bégayez les secrets de la nature. Pour moi, tout est perdu. Je suis perdu pour moi-même. Moi naguère encore le favori des dieux. Pour m'éprouver, ils m'ont envoyé Pandore, si riche en trésors, plus riche encore en danger. Ils m'ont pressé sur sa lèvre prodigue. Ils m'en arrachent et me poussent à l'abîme. En aucun moment une telle strophe n'était sortie de la plume du poète d'ordinaire si maître de lui-même. Alors que l'adolescent ou l'homme mûr avait toujours su cacher ou taire ses sentiments intimes et ne les avait exprimés qu'à l'aide d'images et de symboles, ici le vieillard les révèle magnifiquement et sans fort. Jamais, peut-être, le grand lyrique n'a été plus vivant que dans ce poème inoubliable qu'à ce tournant manifeste de sa vie. À peine rentré à Weimar, le premier soin de Goethe, avant de se livrer à aucun autre travail littéraire ou domestique, est de faire une copie calligraphiée de l'élégie. Tel un moine dans sa cellule, il passe 3 jours à la transcrire, en lettres majestueuses, sur un papier choisi tout exprès, et la cache soigneusement à ses amis, même les plus familiers. Pour éviter tout bavardage, il se fait relieur et attache le manuscrit avec un cordon de soie dans une couverture de maroquin rouge, qu'il fera remplacer plus tard par une magnifique reliure en toile bleue que l'on peut voir encore aujourd'hui dans les archives Goethe et Schiller. Les jours s'écoulent, tristes et maussades. Son projet de mariage n'a provoqué que raillerie chez les siens, et a même déclenché chez son fils des accès de haine ouverte. Ce n'est que dans sa poésie qu'il peut demeurer auprès de l'aimé. Mais lorsque la belle polonaise, la Szymanowska, vient lui rendre visite, l'état d'esprit des belles journées de Marienbad réapparaît et le rend communicatif. Le 27 octobre, enfin, il fait venir Eckermann. Et déjà la solennité avec laquelle il prépare la lecture du poème montre l'amour qu'il a pour cette œuvre. Le domestique a reçu l'ordre de mettre deux bougies allumées sur la table, et ce n'est que lorsque les bougies sont là qu'Ackermann est prié de prendre place devant la lumière et de lire l'élégie. Peu à peu, les amis, mais seulement les plus intimes, peuvent en prendre connaissance, car Goethe, selon les paroles d'Ackermann, la garde comme une chose sacrée. Quelle est une importance particulière pour lui, c'est ce que montrent d'ailleurs les mois suivants. À la période de bien-être et de rajeunissement qu'il vient de vivre, succède bientôt un effondrement. De nouveau, le poète semble près de la mort, se traîne du lit au fauteuil, du fauteuil au lit, sans pouvoir trouver le repos. La bru est en voyage, le fils plein de haine, personne ne prend soin de lui ou ne l'aide de ses conseils. C'est alors que Zelter, son confident, appelé par des amis, arrive de Berlin. Il se rend aussitôt compte de quoi il s'agit. « Que trouvais-je » écrit-il étonné. « Quelqu'un qui semble avoir l'amour au corps, tout l'amour avec les souffrances de la jeunesse. » Pour le guérir, il lui lit et relit avec tendresse sa poésie, et Goethe ne se lasse pas de l'écouter. « C'était vraiment drôle, » écrira-t-il plus tard, une fois guéri, « que tu me fisses entendre plusieurs fois, avec ta chaude et douce voix, ce qui m'est cher à un degré tel que je ne saurais me l'avouer à moi-même. Et plus loin, je ne veux pas m'en dessaisir, mais si nous vivions ensemble, tu devrais me la lire et chanter jusqu'à ce que tu la saches par cœur. » Ainsi vint la guérison, comme l'écrit Zelter, de la flèche même qui l'avait blessée. Goethe se sauve, on peut le dire, par cette poésie. Enfin, la souffrance est vaincue, le rêve d'une vie commune avec la petite fille, aimée, est enterré. Il sait qu'il n'ira plus jamais à Marienbad, ni à Karlsbad, plus jamais il ne retournera dans le monde joyeux des sans-soucis. Désormais, sa vie n'appartient plus qu'au travail. Il a renoncé au nouveau départ que lui offrait le destin. Par contre, un grand mot est entré dans sa vie, achevé. Jetant un regard en arrière sur une œuvre qui s'étend sur près de 60 années, il la voit éparpillée et dispersée et décide, puisqu'il ne peut plus construire, tout au moins de rassembler. Un contrat pour la publication de ses œuvres complètes est conclu, le droit de reproduction réservé. Son amour, qui s'était un moment égaré sur une jeune fille de 19 ans, revient aux deux vieux compagnons de sa jeunesse, Wilhelm Meister et Faust. Avec énergie, il se met au travail, il retrouve sur des feuilles jaunies des plans qui datent du siècle passé et les refont. Avant qu'il ait atteint la 80e année, le premier ouvrage est terminé, et avec un courage héroïque, il passe à l'œuvre principale de sa vie, le Faust, qu'il termine 7 ans après ces jours tragiques de l'élégie et qu'il cache au monde avec la même piété respectueuse. Entre ces deux sphères opposées du sentiment que nous venons de voir, entre ce dernier désir et ce dernier renoncement, avant cette dernière entreprise et cet achèvement se place en tant que sommet la date du 5 septembre 1823, l'adieu de Karlsbad, l'adieu à l'amour qu'une plainte émouvante a fait passer dans l'éternité. Ce jour-là, nous pouvons à bon droit l'appeler mémorable et invoquer son souvenir, car la poésie n'a pas connu depuis de moment plus grandiose que ce débordement d'un sentiment puissant dans une puissante poésie. Ici se termine l'élégie de Marienbad, 5 septembre 1823.